Bonjour à tous, je vous dis de nouveau du centre Dmitri Staniloï ici à Paris. Nous allons continuer notre cours de théologie orthodoxe et sciences et le sujet, le thème de ce jour sera analogie et modèle en théologie et en sciences, la théorie en théologie et la théorie en sciences et le paradigme en sciences et en théologie. Donc il s'agit d'un cours véritablement de théologie et sciences parce que nous faisons une analyse comparative des termes vus dans le contexte scientifique et dans le contexte théologique. Nous allons commencer, c'est la page 139 de notre support de cours que vous connaissez déjà très bien. Et donc, on va parler des modèles et d'analogies. D'abord, il est évident que le mot modèle n'est pas nécessairement employé en science et en théologie de la même façon. Si on parle du modèle, on parle du prototype, on parle de quelqu'un qui doit être notre repère dans notre transfiguration, dans notre transformation, dans la vie théologique. Notre modèle par excellence, c'est le Seigneur lui-même, le Seigneur notre Dieu. De l'autre côté, dans la science, quand on parle de, quand on évoque les modèles pour nous, c'est des structures qui nous aide à gérer des informations, des données scientifiques. Je cite l'Archimandrite Sophronie. Toute l'expérience de ma vie, des années de la jeunesse jusqu'à la vieillesse, m'a amené à une vision claire. La façon dont nous nous représentons mentalement l'être premier, Dieu, celui sans commencement, se réfracte dans toutes les manifestations de notre vie. Je répète parce que il s'agit d'une phrase assez dense, assez compliquée. Toute l'expérience de ma vie, c'est-à-dire cette proposition vient d'une expérience de vie, des années de la jeunesse jusqu'à la vieillesse, m'a amené à une vision claire. La façon dont nous nous représentons mentalement l'être premier, Dieu, celui qui est sans commencement, se réfracte dans toutes les manifestations de notre vie. C'est-à-dire, l'Archimandrite Sophronie nous fait part de cette expérience à lui qui exprime le fait que selon notre façon de concevoir Dieu dans notre mental, dans notre intellect, se reflète dans tout ce que nous faisons dans cette vie. Encore, je le cite, « Tout changement » dans notre vision mentale du commencement sans commencement, du principe de tout ce qui existe, porte nécessairement avec soi un changement correspondant dans les sensations, les pensées, les actes, les réactions qui sont les nôtres à tout ce qui nous entoure. Ça veut dire qu'on parle de l'orthodoxie, qu'on parle de notre image correcte de Dieu, cette image doit se refléter dans notre agissement. Et donc, l'orthodoxie devient en nous l'orthopraxie, c'est-à-dire les bonnes actions suite à notre foi correcte, c'est-à-dire à notre approche dans la vérité de notre Seigneur. Si on parle de la représentation dans le monde théologique, on peut parler aussi dans le monde scientifique. Par exemple, en science, dans la physique, par exemple, la représentation permet une meilleure compréhension de la réalité physique. La science a été aidée dans cette démarche par le développement des structures intellectuelles ou matérielles appelées modèles et qui permettent de manière analogique d'observer plus précisément les phénomènes décelés dans la nature. La différence entre le modèle et le phénomène réel est que le modèle est facilement manipulable et qui synthétise seulement les aspects contrôlables par l'observateur, parmi tous ceux présents réellement dans la nature. Ainsi, l'esprit humain peut se trouver face à des problèmes plus simples que ceux du monde physique concret, ce qui lui permet de les résoudre. On va faire une comparaison entre les deux façons de procéder, en science et dans la théologie. La pratique de la science contemporaine témoigne de l'utilisation courante de plusieurs types de modèles, tels les modèles théoriques, conceptuels, mathématique, expérimentale, de laboratoire. Tous ont en commun un principe de fonctionnement de type analogique. Et je vous cite maintenant Jean Kowalewski, Science et Religion, dans le volume Convergence, Science et Religion. L'énoncé des théories et des lois sous-entend la formule « tout se passe comme si ». Newton l'a utilisé explicitement dans l'énoncé de la loi de la gravitation universelle. Plus tard, l'observation du mouvement de la planète Mercure a montré que celle-ci ne s'y soumettait pas complètement. Par conséquent, Einstein a remplacé l'énoncé newtonien par un énoncé basé sur un principe totalement différent. Tout se passe comme si l'espace était déformé par la présence de la matière, les planètes suivant des trajectoires déterminées par la courbure dans tel espace. Mais la loi de Newton continue à rester une excellente approximation. Dans le langage scientifique moderne, ce « tout se passe comme si » en guillemets, s'appelle « modèle ». C'est très beau. Qu'est-ce qu'on découvre en théologie? Maintenant, je vous cite. Vous allez reconnaître, je pense, facilement les lectures. Il y en va du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il y en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au pont de jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il y en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il en sera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Donc de façon analogique, semblable à celle scientifique sur la base d'une structure connue décelée dans la réalité matérielle, immédiate ou familiale, empereur, maître, jeune, fille, l'on représente une structure, entre guillemets, inconnue, dans le cas présent, quelque chose qui tient à la réalité divine, le royaume des cieux. Comme pour le modèle analogique en science, que nous pourrions nommer modèle en théologie, vise à représenter le non familier en termes de interfamilier et le non observable en termes de familier et d'observable. Je cite maintenant Friedel Weinert, The Scientist as Philosopher. La théologie fonctionnant sur le plan vertical ne peut cependant pas concevoir un modèle comme une structure intellectuelle imaginée pour être fertile sur le plan de la pensée, mais plutôt comme une structure incluse dans la vie concrète, donc déjà existante, mais que l'inspiration donnée par la grâce met en évidence en lui révélant un sens spirituel. Les paraboles du Christ offrent aux chrétiens une source inépuisable de compréhension, à la condition que la grâce de Dieu, qui est la clé, dévoile à celui qui en a assoiffé le sens nécessaire. Ainsi, par exemple, le geste d'utilisation de la parabole ne concerne pas exclusivement l'esprit, mais elle est une œuvre de l'esprit aidée par le pouvoir d'un nom. Donc, on voit dans les deux domaines qu'on se sert des structures familières justement pour évoquer quelque chose qui n'est pas si familier. Le mot « modèle théologique » n'est pas facile à utiliser. Il est évident que le mot « modèle » dans ce sens-là, on l'utilise surtout dans la science. Pourtant, je pense qu'on peut imaginer l'utilisation du mot « modèle » justement pour accueillir, si on peut dire, ce genre d'analogie. Le modèle théologique contribue à la représentation, à l'approfondissement, à la compréhension. Mais ici, l'analogie opère par la connexion de deux niveaux de réalité différents, humain et divin, qui est possible non tant par l'effort autonome de l'homme dans l'espace de la pensée, que par l'effort théonome, c'est-à-dire en relation avec Dieu, qui dépend de Dieu, c'est-à-dire dépendant de l'aide de la grâce de Dieu. L'homme vise une transformation intérieure en se rapportant à Dieu, qui est son modèle. Ici, on utilise le mot modèle en tant que prototype. Mot utilisé ici dans le sens de la culture classique, de prototype, de but, de paradigme. Et sa démarche se déroule dans les termes d'une participation à la relation de celui dont la ressemblance est recherchée. L'homme est aidé par l'homme Dieu, Jésus-Christ, pour tendre à la ressemblance avec lui. Il est une évidence à l'heure actuelle que la théologie utilise le concept de modèle, surtout au sens d'archétype, prototype, canon, paradigme. On peut cependant déceler aussi une utilisation au sens d'une représentation simplifiée de quelque chose ou de quelqu'un, vouée à être approfondie par la connaissance similaire à celle scientifique. Ainsi, de sa vie sur terre, le Christ, fils de Dieu et en même temps fils de l'homme, l'incarnation, fait par l'incarnation, partageant les deux réalités divines et humaines, exprimées à l'homme en quête de Dieu à l'aide des images modèles appartenant à la réalité quotidienne, la réalité du royaume des cieux, en l'entraînant ainsi d'ici-bas dans un vécu compatible avec la divinité. Donc on peut voir des similitudes. Les analogies théologiques sont utilisées pour dépeindre de façon iconique et non servilement photographique une réalité qui résiste par sa profondeur infinie à la représentation par des moyens humains, de la difficulté infinie de toute entreprise théologique. Donc on peut évoquer, on peut oser bien sûr, on ose évoquer le modèle aussi dans la théologie en s'inspirant un tout petit peu du monde scientifique. Et il y a des différences entre les deux parce que le modèle en science est un principe impersonnel. C'est-à-dire, en principe, on utilise des structures de ce monde justement pour imaginer, pour modéliser des structures dont nous n'avons pas accès. Dans la vie théologique, on peut s'inspirer de ce modèle pour dire que dans les paraboles du Seigneur, il y a aussi des analogies qui jouent le rôle d'un modèle, mais il est clair que pour la théologie, le mot, le syntagme, le mot-clé, on peut dire modèle, évoque d'abord la question du paradigme, du canon, du prototype, d'archétype. Vice-versa, on peut dire aussi que la science emploie l'idée de modèles humains, par exemple des hommes de science qui sont extraordinaires, mais c'est vrai que la science est plutôt ça, reliée plutôt à la philosophie de la science ou l'histoire de la science. Donc en science, le modèle est souvent une entité physique. Donc le fonctionnement est connu ou une construction intellectuelle. En théologie, nous croyons que le rôle de modèle peut être joué par la parabole aussi, ce qui présuppose l'édification d'une réalité spirituelle à l'aide des briques conceptuelles qui relèvent de la vie courante, habituelle. Le symbole, une condensation conceptuelle de la richesse d'un vécu par une image illustrative fortement chargée de sens. L'icône qui suppose la contemplation à l'aide de l'image et en même temps participation. Pour parler un tout petit peu des modèles en science, disons en quelques lignes de quoi il s'agit. Dans la science classique, on parle du modèle théorique ou conceptuel, et celui qui facilite le passage des données expérimentales à la formulation d'une théorie. Ce passage n'est pas implicite car toute théorie est déterminée par les données. La cohésion et l'assemblage rationnel des données tient à une démarche créative qui peut être facilitée en se rapportant d'autres structures. Donc le fonctionnement est connu du chercheur et qui joue le rôle de modèle. Ian Barber identifie trois caractéristiques générales des modèles. La première, c'est que les modèles sont analogiques. Par exemple, on peut voir le modèle d'atome de Niels Bohr, par exemple. Il y avait des analogies, par exemple, entre les planètes autour du Soleil et les électrons autour du noyau de l'atome. Bien sûr que c'est des analogies qui ne tiennent pas véritablement scientifiquement parlant, mais on a pu donner ce genre d'exemple pour une meilleure représentation. Parce que où se trouve le souci, c'est tout simplement que dans l'intérieur des atomes, en fait, on ne peut pas parler de petites billes comme ça, qui sont les composantes, on peut dire, de l'atome, mais des nuages électroniques de façon, de formes différentes. Voilà, donc l'image en réalité change. Une deuxième caractéristique des modèles de la physique classique est le fait que ceux-ci contribuent à l'extension des théories. Une troisième caractéristique est l'intelligibilité des modèles en tant qu'unité, c'est-à-dire le modèle en tant que représentation mentale proposant une vision unitaire est parfois plus fertile qu'une série d'équations, car il fait appel à des structures de pensée plus larges permettant un discernement aussi bien global, holistique, que par des compositions en partie constituantes, aussi bien intuitif qu'analytique. On n'entre pas dans des détails, je ne vais pas détailler non plus. Donc, ce qui est important, c'est que dans la physique du XXe siècle, nous assistons à une mutation, c'est-à-dire avant, on utilisait le modèle justement pour permettre à l'imagination de toucher en quelque sorte une structure, quelque chose qui pouvait manipuler. Aujourd'hui, on associe fondamentalement le modèle à la compréhension. C'est-à-dire, nous faisons ainsi le passage du concept de modèle générateur de théorie à celui de théorie génératrice de modèles afin d'approfondir celle-ci. Donc avant, c'était un modèle, on utilisait le modèle pour découvrir une théorie, c'est-à-dire une image sur la réalité. Mais à partir du XXe siècle, dans la physique quantique, nous avons des théories qui génèrent des modèles. Maxwell et Hertz posent comme principal véhicule de la compréhension physique le modèle scientifique. En ce qui concerne Erwin Schrödinger, il lie intimement la charge de la compréhension à l'habileté humaine à construire des modèles conceptuels. On passe à Einstein. La compréhension physique est acquise lorsque les modèles appropriés sont disponibles. Les modèles appropriés doivent être compatibles avec l'évidence. La mise en rapport des structures des modèles et des données empiriques doit être faisable et justifiable. Il y a des physiciens dans ce contexte qui font la distinction entre explication et compréhension. Nous, on comprend très bien aussi dans le monde de l'Église. Donc, la théorie génère l'explication, le modèle génère la compréhension. Ça se passe à partir de la physique du XXIe siècle, ou XXe siècle également. Nous n'allons pas entrer dans des détails, vous les trouvez dans le support du cours. Ce qui est important pour nous, au centre de Mitre Stanilai, c'est de retenir cette proposition qui me paraît extrêmement importante. Les modèles analogiques proposent de représenter le non familier et le non observable en termes de familier et d'observable. Il y a beaucoup de modèles dans la science, donc on ne va pas comparer tous les modèles de la science avec ce qu'on peut découvrir dans le monde théologique, mais le modèle analogique nous sert beaucoup. Parce qu'après, il y a des modèles, par exemple le modèle échelle. On représente des objets du monde réel copiés à des échelles différentes. On peut continuer tout ça, mais ce n'est pas ce qui nous importe, qui nous intéresse. Le plus important pour nous, c'est qu'on peut trouver certaines structures dans le fonctionnement scientifique qui nous inspirent à voir des choses similaires dans le monde théologique. Le modèle analogique comme réalité de médiation entre Dieu et l'homme en théologie. L'une des raisons de l'existence de la multitude de religions est due au fait que l'homme véhicule une pluralité des modèles de la divinité. C'est-à-dire, l'homme imagine à sa façon, de sa façon, la divinité. C'était représentation, bien sûr, tributaire aux manières humaines de concevoir les choses qui, en réalité, les dépassent. Donc, il y a des modèles différents ou des manières différentes à s'approcher aussi de la divinité. Par exemple, la tradition extrême-orientale est panthéiste. C'est-à-dire, Dieu et le monde se confondent. la rédemption, si on peut parler d'une rédemption, c'est une question de fusion avec le grand tout par une perte complète d'identité. Conséquence naturelle, on ne peut pas parler de l'amour parce que l'amour, c'est entre des personnes d'abord avec une identité différente. C'est des partenaires de dialogue. Dans les religions animistes, la nature est animée par des esprits. Le lien avec ceux-ci assure une bonne harmonie avec la nature au niveau du monde physique. Il manque cependant la préoccupation pour un Dieu unique et créateur du monde entier. Et on ne va pas entrer non plus dans tout ce genre de détails. Mais ce qui nous concerne, nous les chrétiens, c'est d'avoir cette image de Dieu qui est donnée par le Seigneur lui-même, parce que nous affirmons le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, et en tant que Dieu, il passe l'incarnation, il nous explique, il nous partage, il nous donne, il nous familiarise avec sa réalité à lui qui est la réalité divine. Il parle beaucoup dans des paraboles. Les paraboles sont un peu les ponts qui relient des notions, des aspects accessibles à l'homme ordinaire. On touchait en général les activités quotidiennes, la pêche, la noce, la récolte, les semences, voilà, avec tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Je vous ai donné des exemples, on ne va pas entrer dans trop de détails ici non plus. Il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au pont de jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. On continue comme ça. Donc les paraboles ouvrent la compréhension humaine vers les auteurs spirituels en utilisant ce qui a un sens familier. C'est une connaissance par image, on peut dire une icône. Mais aussi il y a des symboles. Les symboles ne sont pas réductibles à une seule réalité, on peut dire. Les symboles jouent le rôle d'un modèle analogique. Même sous sa forme littéraire, le symbole n'est pas utile dans son sens strictement littéral, mais en dépassant celui-ci. Une compréhension littérale, je cite Vassarab Nicolescu, une compréhension littérale du symbole le transforme en une notion statique, morte, sans aucune valeur. Nous devons accepter une relativisation du regard qui nous permet d'appréhender le nombre indéfini d'aspects d'un symbole. Cette relativisation ne peut être présente que si le symbole est conçu en mouvement et s'il est vécu par celui qui se plonge dans sa signification. Le nombre indéfini d'aspects d'un symbole ne signifie nullement que celui-ci est imprécis, vague ou ambigu. D'une certaine façon, on peut dire que le symbole se situe à l'opposé de l'univocité caractéristique à l'expression scientifique. C'est comme dans la poésie, par exemple. Il y a une sorte de clé qui ouvre des horizons. Donc, ça permet d'évoquer certaines profondeurs qui sont difficilement accessibles avec des termes qui ne peuvent pas les porter en réalité. Donc il nous faut ce genre de symbole. Mais le symbole par excellence dans la vie chrétienne est le Seigneur lui-même, parce que symbole, symbolon, deux volontés distinctes, nous fait penser à celui qui, étant homme et Dieu, met la volonté humaine, la volonté divine, fonctionner ensemble. Donc le symbole par excellence est la personne divine ou humaine du Seigneur. Mais aussi, Mircea Eliade affirme, les symboles sont une sorte de hiérophanie, parce qu'ils révèlent une réalité sacrée que ne peut découvrir aucune autre manifestation. Il y a beaucoup de symboles qu'on utilise dans la vie de l'Église. Pour donner quelques exemples, par exemple la voie ou le chemin, l'échelle, la montagne, la fontaine, la source, la pêche. L'évangile parle de la voie de la lumière et des ténèbres. L'épître de Barnabas, la didaquie de 12 apôtres, l'un des textes chrétiens les plus anciens, mentionne la voie de la vie et de la mort. Il existe également le thème du voie du milieu, voué à illustrer le sage équilibre entre le zèle excessif et l'hésitation ou la paresse d'entamer le chemin de la rédemption. Le symbole du pont exprime la nécessité de médiation entre deux niveaux de réalité distincts, le créé et l'uncréé. Le pont unit deux rives. Dans cette optique, la prêtrise représente le métier de bâtisseur du pont, par excellence, selon le modèle même du Christ, qui est le pontifex divin, c'est-à-dire bâtisseur du pont entre la divinité et l'humanité. Un autre type de pont, cette fois-ci sur la verticale, est l'échelle. Celle-ci suppose des marches, une élévation graduelle, un effort pour vaincre la gravitation du péché, du tellurique. En parcourant l'échelle, le corporel se spiritualise. Dans son fameux ouvrage « L'échelle du paradis », Jean Climac décrit sous la forme d'une échelle les étapes de l'accomplissement chrétien. Par donc l'acquisition des différentes vertus. On parle aussi d'icône. L'icône est un aspect extrêmement important dans la vie de l'Église parce que toute théologie est iconique. Nous-mêmes, nous les êtres humains, nous sommes des icônes de Dieu parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Le Fils de Dieu est l'icône du Père, l'image du Père. Le simple fait que nous avons la capacité d'entrer en relation avec Dieu, on le doit au fait que nous portons dans nos êtres, pour ne pas dire nos cœurs, l'icône de Dieu. Donc on peut dire que toute la théologie est une réalité iconique. Il est évident que c'est une différence entre la représentation photographique, où il y a une sorte de réalisme, on peut dire le réalisme absolu, et l'icône qui me présente l'immersion du divin chez l'être humain. L'icône propose une contemplation transfigurée par la grâce. Elle exige les yeux purs dont parle le Seigneur, c'est-à-dire heureux seront les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Des yeux que la lumière de la grâce sanctifie, ennoblit de l'intérieur, en sauvant aussi l'être humain. Donc si nous voulons finalement faire une comparaison entre l'utilisation du modèle dans la théologie et dans la science, bien sûr que le modèle scientifique est par excellence une structure qui aide à mieux comprendre au niveau phénoménologique la nature, et que le mot modèle qui est utilisé dans la théologie fait référence plutôt au prototype qui est le Seigneur lui-même. Mais en même temps, ce que je suggère ici dans ce cours, c'est qu'on peut s'inspirer du modèle scientifique pour déceler dans des paraboles, dans des symboles, dans les icônes, dans les modèles analogiques, tout ça, un travail qui ressemble à ce qu'on fait dans la science, un travail justement pour vulgariser les questions de la participation, on peut dire, au royaume de Dieu, ici et maintenant, à travers des structures qui nous aident à mieux comprendre qui est notre Dieu et qui est-ce qu'il est ce qu'il vit. Et donc, ce travail de vulgarisation nous permet d'utiliser le mot modèle, disons, théologique. On se souvient par exemple de Saint Spyridon qui a illustré le dogme de la Trinité, par exemple en prenant une brique, et de cette brique jaillit le feu, s'écoula de l'eau, il resta de la terre dans la main du sang. Pourquoi ? Pour illustrer justement de quelle façon les trois personnes de la divinité se trouvent ensemble, trois personnes et en même temps en partageant la même nature. Dans l'orthodoxie, on parle de la scène de l'hospitalité d'Abraham, qui signifie, qui illustre, sous l'inspiration de l'iconographe André Roublieu, la Sainte Trinité, en s'inspirant de la visite que Abraham a reçu de la part de trois anges. Mais quand on dit trois anges, si vous regardez le texte, on parle de trois hommes. Donc, on parle d'une représentation anthropomorphique. On peut rejeter aussi certaines représentations, par exemple Dieu le Père comme un vieillard avec une longue barbe. C'est une représentation un peu difficile à accepter dans le sens où c'est que le Fils de Dieu qui est devenu homme, c'est-à-dire c'est le seul qu'on peut représenter parce que c'est le seul qui a pris chair, qui est entré dans ce monde. Le Père reste Esprit et le Saint-Esprit reste Esprit. Mais le Saint-Esprit aussi se montrait sous la forme d'une colombe, sous la forme de flamme, de feu. Et donc, d'une certaine façon, par ces analogies, on peut s'approcher d'une compréhension théologique. On passe au sous-thème suivant, la théorie. En fait, il y a une distinction qu'on peut saisir aujourd'hui, c'est la théoria, le mot grec ancien en théologie, et la théorie en science. La science recherche la construction d'un cadre théorique qui explique au mieux les faits, les données dérivées par des observations et des mesures. En science, la théorie, le grec théoria, désigne un développement intellectuel par lequel on se propose d'expliquer des faits mis en évidence par l'expérimentation. La théorie est un instrument de travail tellement usité dans la science d'aujourd'hui que les différentes acceptions possibles du terme, comme en théologie, restent discrètement dans l'ombre. En dépit de cela, le concept de théorie est fondamentalement présent dans le vécu chrétien tout autant qu'en science. En sens théologique, théorie est l'expression d'un degré profond de connaissance de Dieu, c'est-à-dire c'est la contemplation de Dieu, l'expérience mystique contemplative de Dieu. Parlons d'abord des théories scientifiques comme interprétation explicative des faits expérimentaux. Le concept de théorie fait partie des briques fondamentales qu'utilise aujourd'hui la science dans son édification. La théorie est un ensemble d'idées, de notions abstraites, plus ou moins organisées, qui s'appliquent à un domaine de connaissances précis. C'est une construction intellectuelle méthodique et organisée à caractère hypothétique et synthétique. C'est une supposition, un système d'idées qui cherche à expliquer quelque chose, en général sur la base des principes généraux, indépendants de l'objet qu'ils expliquent. Mais si on regarde, par exemple, dans les dictionnaires, Oxford Dictionary of English, l'origine du terme scientifique, je parle, faisant appel à son acception initiale du XVIe siècle comme schéma mental de quelque chose qui doit être fait. Donc, il faut comprendre qu'à partir du mot ancien théoria du grec, via le latin, on a affaire aujourd'hui à deux significations distinctes, contemplation sur le côté théologique et spéculation le côté scientifique. Et aussi, on peut ajouter spéculation intellectuelle dans le sens où on donne une image de la réalité à travers cette théorie. Je pense que la spéculation a donné à partir de l'époque moderne l'acceptation scientifique du terme. Cette dernière est celle d'une représentation abstraite d'un phénomène développé strictement à l'aide des moyens intellectuels. L'adaptation parfaite du terme aux exigences de la science moderne le définit aujourd'hui comme une structure développée au niveau mental. Une image intellectuelle traduisible en propositions logiques et vérifiables. C'est une interprétation qui veut donner une colonne vertébrale à des faits expérimentaux disparates. C'est une cohérence intérieure pour un puzzle de faits ayant besoin d'un principe intégrateur pour être compris dans leur ensemble. On peut ajouter encore, même si on risque d'entrer dans trop de détails, la théorie peut être évaluée par deux traits. L'un qui tient la relation avec le phénomène étudié, qui est le rapport avec l'extérieur, et l'autre qui tient la structure intérieure, de la simplicité logique des prémices, et qu'Einstein nommait la perfection interne. Qu'est-ce qu'on fait avec les théories ? Je cite Albert Einstein. La théorie n'a pas le droit de contredire les faits de l'expérience. Aussi clairement qu'apparaisse à première vue cette exigence, tout aussi subtile en est la structuration dans l'application. Ainsi, l'on peut souvent, si ce n'est toujours, maintenir un fondement théorique général dans la mesure où l'on rend possible son adaptation aux faits par des hypothèses supplémentaires introduites artificiellement. C'est-à-dire, ce qu'on essaie de comprendre, c'est que on parle d'une théorie, on ajoute des faits expérimentaux et petit à petit, en ajoutant des hypothèses supplémentaires, on développe les théories. De l'autre côté, dans la théologie chrétienne, on parle de la théoria comme expression du vécu mystique. Par exemple, si on cite Saint Grégoire Palamas, lui, il défend l'expérience de la lumière divine accessible par le don de Dieu. L'apophatisme est l'échelon le plus élevé de la théologie. Cette œuvre au-delà de l'esprit est supérieure à celle de l'esprit. Ils ne connaissent pas Dieu, non car ils ne voient rien, comme ceux qui le pensent par la négation, mais parce que par la vue même, ils voient ce qui est au-delà de la vue. Donc, on parle de la vision de Dieu. Et, à l'heure actuelle, dans le monde théologique, on fait souvent cette confusion voulue entre vision de Dieu et théoria contemplation de Dieu. Parce que la vision de Dieu est une contemplation. Donc, non pas par annihilation et paralysie de l'esprit, par cessation de tout raisonnement, mais au contraire son activation à niveau de surpuissance, le détachement de l'esprit par la puissance de la prière, de toute détermination éliminative et son entraînement dans ses profondeurs où règne la superprésence de Dieu. Ce qu'on peut dire, c'est que l'expérience des pères qui ont fait qui ont eu l'occasion concrète de sentir porté par Dieu, il est expliqué par ses pères qu'il s'agit d'un arrêt de fonctionnement naturel de la personne humaine. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que l'exercice habituel de l'intellect s'arrête et que l'intellect est porté au-delà de ses puissances. Ça paraît être naturel, mais en réalité, c'est surnaturel. Mais ce n'est pas une anéantisation, on peut dire, des puissances naturelles. C'est-à-dire, ça ne se passe pas par une contradiction par rapport à la volonté humaine, mais au contraire, l'homme est porté dans sa liberté au-delà de ses capacités humaines. Ce qui est intéressant aussi dans la vie de l'Église, c'est les remarques du père John Breck, qui dit que la théorie est, dans une acceptation plus large, toute vision de la vérité divine communiquée à l'Église par l'Esprit Saint. C'est-à-dire, on n'accepte pas de restreindre en quelque sorte le mot théoria pour des états mystiques dont certains ont accès, mais la théoria représente aussi toute contemplation de la présence de Dieu à travers ce que l'Église nous donne. Donc, en entrant dans l'exégèse de l'Écriture, le père John Breck dit qu'une prémisse erronée réside dans l'idée que l'exégèse est essentiellement une science au sens moderne du mot. L'idée que l'histoire même comporte la vérité ultime. La théoria, cependant, comprend l'événement historique comme un véhicule essentiel de cette vérité, un vaste rien qui contient un trésor éternel. Donc la théoria nous sauve justement par son apophatisme, nous sauve de considérer qu'on peut épuiser par nos pensées ou discours la présence de Dieu. Il est évident que nous sommes dans une démarche qui dépasse nos pouvoirs naturels. La théoria, dit toujours le père John Breck, La théorie offre une vision sur la réalité invisible qui se dérobera incessamment aux recherches minutieuses des sciences empiriques. Cette vision dans les profondeurs cachées de la révélation divine est offerte à l'interprète qui adopte consciemment et avec foi une attitude de contemplation et de prière. Le véritable théologien nous rappelle le Père et l'homme qui prie. C'est-à-dire, c'est à travers la prière que l'homme arrive à goûter la théorie. Donc, si on compare les deux, dans la science, le concept de théorie se rapporte à une démarche ontologiquement distincte de celle que recouvre ce terme dans l'espace de vécu théologique. En science, le théorique se rapporte à une représentation abstraite dans l'espace des idées. En théologie, il exprime l'étape finale de la prière correspondant à la rencontre, vision avec Dieu. En science, l'imagination, la virtualité participent à la construction d'une image explicative en correspondance avec la réalité physique, dans l'espace de l'esprit humain. Tandis qu'en théologie, l'imaginaire s'efface pour faire place au vécu de la présence de l'Esprit Saint, qui porte l'homme au niveau supérieur de rencontre avec la réalité divine. La théorie en science est l'image d'un phénomène, édifiée avec les briques de la construction conceptuelle et logique. La théorie en théologie est une vision active, la participation en réalité, insaisissable par des concepts, mais qui est vécue dans la communion que Dieu lui-même ouvre à l'homme. En science, la théorie ne doit pas être contredite par l'effet de l'expérience. En théologie, la théorie à contemplation de la présence de Dieu est création par laquelle Dieu assume pleinement l'initiative de l'expérience qu'il donne à vivre à l'homme. C'est-à-dire, vous trouvez dans le manuel de spiritualité orthodoxe de Père Dumitru Stăniloae cette idée comme quoi la mystique, c'est l'étape ultime qui mène à une contemplation où c'est Dieu par excellence qui a l'initiative et que l'homme en quelque sorte subit cette initiative de Dieu. Mais n'oublions pas la signification plus large du mot théoria. Théoria, ça veut dire n'importe quelle contemplation de la présence de Dieu. Enfin, on parle du paradigme en science et en théologie, étant donné que pour le monde des sciences, il existe un personnage célèbre qui s'appelle Thomas Kuhn, qui propose le terme de paradigme pour décrire la façon dont la communauté scientifique, à une certaine époque, interroge la réalité en se rapportant des repères de type épistémologique dans un contexte historique et géographique donné. Et il parle en termes de révolution, c'est-à-dire le changement des paradigmes, c'est-à-dire le changement dans la manière dont on fait la science à une époque à une autre, s'appelle révolution scientifique. Et Thomas Kuhn, il considère que le passage d'un paradigme à l'autre n'est pas un passage linéaire, donc il s'agit vraiment d'une révolution. On change d'une façon radicale notre façon d'interroger la nature. Je vous tout simplement je vous conseille de trouver son ouvrage. En ce qui concerne la théologie, on se pose cette question si on peut parler du paradigme. Si on évoque par paradigme notre façon de faire de la théologie, de se rapporter à Dieu, au sein du christianisme, on peut dire que l'orthodoxie est par excellence la façon correcte de pouvoir tenir compte de la révélation de Dieu. Donc, la confessionnalité, c'est-à-dire les confessions différentes, ne peuvent pas ou ne doivent pas exister. C'est-à-dire, nous tous, nous devons être dans l'orthodoxie. Dans ce sens-là, le mot paradigme en tant que façon de comprendre la réalité de Dieu, notre paradigme doit être notre paradigme commun à tous les chrétiens sur la face de la terre, que ce soit les orthodoxes, les protestants, les catholiques ou autres. Et chacun se dit être dans l'orthodoxie, donc le témoignage orthodoxe est qu'il existe une seule orthodoxie qu'on a vécue tous ensemble d'ailleurs dans le premier millénaire Et cette orthodoxie veut dire qu'en réalité, c'est le paradigme par excellence dont nous nous rapportons à Dieu. Et donc, selon ce paradigme, il n'y a pas de révolution. Donc, le monde de la réforme, c'est-à-dire la révolution qui a changé la façon dont on faisait la théologie, n'est pas acceptable d'un point de vue orthodoxe. Je m'arrête là avec nos réflexions et je vous invite la prochaine fois pour un dernier cours de cette année qui sera un peu le cours nous livrera nos conclusions et dans lequel nous allons évoquer la question de la typologie des rapports entre la théologie et la science. Merci de votre attention.